18h, 19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.
Eh bien bonsoir, bonjour à tous, ravi de vous retrouver chers amis auditeurs. Nous sommes partis pour commenter, analyser, décrypter l'actualité dans Les Informés. Les Informés, vous l'aurez compris, c'est 18h, c'est le tout nouveau créneau, 18h-19h30, ensemble. Alors au sommaire dans cette émission, Des Informés, pendant 1h30, nous allons commencer une interview avec l'ancien ministre de la Ville, la députée Nadia Hay, qui viendra nous parler des, évidemment de la riche actualité en ce moment, notamment la crise, le bouclier tarifaire. Et puis, que va-t-il se passer durant les prochaines semaines, évidemment, pour le gouvernement et au Parlement qui installe cette loi qui doit être, cette loi du budget, qui doit être votée, et comment compte-t-il faire voter cette loi avec notamment les Républicains? L'énergie, un risque de pénurie d'électricité l'hiver prochain. Tiens, tiens, ça mérite quand même qu'on s'attarde dessus et qu'on en parle. Et autre sujet, la polémique au PSG, le duo Mbappé-Galtier avec, évidemment, ce mépris. Clochette! Mais qu'est-ce que vous a pris, franchement, l'entraîneur du PSG, Mbappé? Pas vous, franchement, très honnêtement. Vous méprisez les Français, vous méprisez la population. Quand en plus, vous méprisez la question qui est posée par la journaliste en disant tout simplement, elle n'est pas naïve, on est en pleine crise. Il y a quelques heures avant, le président de la République, Emmanuel Macron, qui dit qu'il faut consommer moins, le journaliste vous pose la question et vous lui répondez par le mépris. Ta-ta-ta, vous m'arrêtez, double clochette. Et bon, on va en parler. On va en parler tout à l'heure parce qu'effectivement, le monde politique s'insurge, et puis les crachats de partout en pleine figure concernant évidemment cette polémique Galtier-Mbappé. Et puis autre sujet aussi qui a retenu notre attention, c'est le carburant chez Total. Possible qu'il n'y ait plus de... qu'au gros, c'est la difficulté. Chers amis auditeurs, je ne veux pas vous effrayer, mais il risque d'y avoir une pénurie de carburant. Comment va-t-on rouler? Ça, je parle, ça, c'est pas dans les prochains mois. C'est dans les prochaines semaines. Vous savez, on vous annonce les éléments goutte par goutte, comme ça, au compte-goutte. Les trains, les piscines, les musées, le carburant, ensuite après l'eau. Bref, tout doucement, voilà, vous allez comprendre. 18h30, enfin vous d'abord, 18h10, les auditeurs 01 53 48 3000, venez exprimer votre opinion, venez exprimer votre commentaire, le standard est ouvert, vous pouvez d'ores et déjà nous joindre 01 53 48 3000 et vous êtes très nombreux à le faire comme chaque soir. 18h30, 19h30, le face-à-face. Emmanuel Dupuis, l'éditorialiste justement, le président de l'IPSE, pardon, qui viendra face à Rudy Kazi, justement, pour commenter les trois sujets d'actualité. Il y en a un qui devait être parmi nous, il s'est excusé, c'est Ahmed Lawedj. Il a un problème, un souci de famille. J'espère rien de grave, Ahmed Lawedj, si vous nous écoutez. Les Informés, c'est tout de suite, c'est maintenant, et en toute liberté d'expression.
Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présentés par Adil Farkan.
L'interview du jour, c'est parti.
Les Informés, l'interview.
Et l'interview, c'est avec Madame Nadia Hay, Madame la députée, notre ancienne ministre chargée de la ville. Bonjour Madame Nadia Hay, Madame la députée.
Bonjour Adil Farkan.
Quel plaisir de vous retrouver. Comment vous allez? Dans quel état d'esprit vous êtes?
Écoutez, un état d'esprit de retour de vacances, mais en même temps très concentré sur ce qui nous attend dans les prochaines semaines et prochains mois au Parlement.
Oui.
Donc voilà, donc concentré. Si je dois qualifier en un seul mot.
Dites-moi, au Parlement, en ce moment, c'est tendu, hein?
Pas encore. Là, l'activité au Parlement n'a pas encore commencé. Notre session commence au mois d'octobre, mais évidemment, nous sommes déjà à la tâche pour préparer tous les textes qui s'annoncent assez déterminants pour les mois et années à venir. Et notamment, ce qui va nous préoccuper, c'est évidemment l'actualité sur l'énergie et également le projet de loi de finances qui va nous donner les moyens des ambitions qui sont affichées par le gouvernement.
Comment comptez-vous faire passer la loi sur le budget notamment? Est-ce que vous pensez que les tractations peuvent se faire avec les Républicains? On en parle de plus en plus.
Alors, en dehors même, oui, évidemment, de tous les partis républicains dans le sens le plus global. Les discussions sont évidemment ouvertes. Tous les partis sont appelés aujourd'hui à construire avec la majorité un budget qui va de toute façon évidemment fixer les grandes lignes pour l'année à venir. Et donc, il y a les Républicains, mais aussi, évidemment, l'aile gauche de l'Assemblée nationale. En fait, toutes celles et ceux qui ont envie de participer tout simplement à la réussite du pays sont invités à travailler avec la majorité.
Madame la députée, Madame la Diète, justement, le président, le chef de l'État, Emmanuel Macron, s'est exprimé hier longuement concernant donc la crise énergétique. Notamment, est-ce qu'il n'y a pas un risque, un énorme risque de pénurie d'électricité cet hiver avec la crise énergétique qu'on est en train de vivre actuellement en France ?
Ce qui est certain, c'est que le président de la République et le gouvernement sont totalement aujourd'hui engagés à la tâche pour éviter que cette pénurie n'advienne aujourd'hui pour des sources d'énergie qui nous sont vitales, telles que le gaz et l'électricité. Il y a beaucoup de travail qui est engagé à l'échelle européenne, et je pense que aussi notre appartenance à une Union européenne, à un groupe, permet aussi d'éviter le pire. Je sais que, et d'ailleurs le président de la République l'a très bien exprimé hier, qu'il y a des discussions qui sont engagées avec l'Allemagne pour faire des échanges, notamment d'énergie entre les deux pays. Donc il y a une solidarité
d'énergie, disons, expliquons à nos auditeurs, hein, l'échange de bons procédés avec l'Allemagne, c'est on vous donne du gaz, vous nous donnez de l'électricité.
Exactement, tout à fait. C'est vrai que sur la production d'électricité et sur celle du gaz, on peut évidemment commencer à entamer ce genre de discussion, d'échange entre les deux pays. Et c'est ce qui aussi est du ressort de la solidarité européenne. Et ça, je crois que nous avons aujourd'hui la démonstration de cet intérêt d'avoir cette union européenne forte qui permette de protéger les pays qui se retrouvent face à des difficultés. Donc voilà, tous les risques, évidemment, de toute façon, sont possibles dans l'absolu. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le président de la République et le gouvernement et la majorité présidentielle sont totalement aujourd'hui engagés pour éviter que nos concitoyens souffrent de la crise que nous connaissons à l'échelle planétaire.
Mais est-ce que vous pensez, notamment, que les Français sont prêts à jouer le jeu ? À jouer le jeu, notamment, des 10% de vouloir réduire la consommation de 10%. 10%, c'est pas mal, quand même, Madame la députée. Est-ce que les Français peuvent faire ce type de sacrifice ?
Moi, vous savez, je crois énormément à la résilience des Françaises et des Français. Quand il a fallu confiner le pays il y a 2 ans, tout le monde nous disait que ça allait être impossible, que notre peuple n'allait pas se plier à cette exigence de devoir se protéger face à un virus qui nous était à ce moment-là inconnu. Et pour autant, les Français ont montré cette résilience et ils ont su aussi s'adapter à la nouvelle donne, en tout cas au nouveau contexte national et international. Cette crise de l'énergie, elle touche évidemment tous les pays partout dans le monde. Et donc, il faut s'adapter aussi au contexte.
Madame la députée, là, quand même, ça fait beaucoup quand même. On en demande beaucoup quand même aux Français.
Évidemment,
c'est le gaz, l'électricité, l'essence, le carburant. Bref, franchement, vous pensez vraiment que les Français vont pouvoir jouer ce sacrifice ?
Non, mais parce que de toute façon, à un moment donné, quand nous n'avons pas beaucoup de solutions par rapport au contexte que nous connaissons, nous devons nous adapter. Et moi, j'ai confiance aujourd'hui aux Français sur ce nouveau contexte pour s'adapter à notre nouveau mode de fonctionnement que nous devons adapter selon les difficultés que nous rencontrons tous. Évidemment que c'est trop, évidemment que c'est beaucoup d'efforts que nous demandons. Mais j'ai envie de vous dire que quand aujourd'hui le gouvernement, même le président de la République, annonce des décisions où il annonce aussi un certain nombre de mesures et demande un effort supplémentaire, vous pensez bien qu'il ne le fait pas comme ça pour venir embêter les Françaises et les Français. C'est juste que nous avons aujourd'hui une exigence, une absolue nécessité de nous adapter à la nouvelle donne, au nouveau contexte que nous connaissons aujourd'hui, qui est encore une fois international. Et j'ai envie aujourd'hui aussi d'envoyer un message très clair, c'est que notre majorité a montré aussi cette volonté de protéger les Français face aux crises. Nous étions là pendant la crise sanitaire Et je crois qu'à l'échelle internationale et nationale, maintenant, c'est reconnu. Nous sommes là aussi sur cette inflation qui connaît aujourd'hui un pic comme nous ne l'avons pas connu depuis très, très, très longtemps, j'ai envie de vous dire, des décennies. Et là aussi, le président de la République et le gouvernement sont au rendez-vous de cette aide, de cette protection que nous devons aujourd'hui aux Françaises et aux Français. Et maintenant, quand on demande des efforts, bah, sachez que nous ne le faisons pas par gaieté de cœur, nous le faisons surtout par une nécessité absolue, eh bien, de protéger l'ensemble et de permettre de passer la situation évidemment désagréable, évidemment compliquée, mais qui nous demande à tous des efforts. Et quand je vous dis à tous, vous savez, moi je suis aujourd'hui parlementaire, donc je serai extrêmement regardante et vigilante sur aussi l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des structures, qu'elles soient institutionnelles, qu'elles soient aujourd'hui de l'ordre privé, qui doivent aussi se plier à cet effort que demande le président de la République. Nous y serons évidemment vigilants.
J'ai échangé ce matin avec une mère de famille sur le département du 93 qui m'expliquait effectivement, on échangeait comme ça, à bâton rompu autour de des trentaines de piscines fermées, des musées, des mesures justement que vont connaître les différentes mairies. Et elle me disait que chaque année, elle avait un abonnement donc pour ses enfants, pour le club de la piscine, et qu'elle regrettait notamment la fermeture des piscines parce que, bon, elle sait très bien que c'est pas vital non plus, mais beaucoup sont contraints aujourd'hui de stopper certaines activités. Ça aussi, est-ce que vous pensez que ça ne va pas jouer dans le moral des Français ?
Alors, sur la question des piscines, c'est une question aujourd'hui vraiment pour nous qui est assez préoccupante, effectivement, parce que nous avons développé tout un programme autour du savoir nager. Nous savons aussi le nombre de noyades qu'il y a par an et qui touchent particulièrement les enfants. Et donc, nous ne voulons pas accuser un retard sur l'objectif que nous nous fixons sur le savoir nager. Donc, nous allons rencontrer, moi je le fais à l'échelle de ma circonscription, mais on va le faire aussi à l'échelle nationale pour les parlementaires que nous sommes, les représentants de cette activité, de la filière, pour essayer de trouver ensemble des solutions pour que nos enfants puissent continuer à aller à la piscine, non pas pour un loisir, entre guillemets, qui pourrait être considéré comme étant superflu, mais par une nécessité aussi de répondre à un objectif aujourd'hui qui nous est prioritaire, c'est-à-dire permettre à chaque enfant de pouvoir nager. Donc nous sommes conscients de la difficulté de la fermeture des piscines, et oui, nous sommes en train de rencontrer l'ensemble des professionnels de cette filière pour voir quelles solutions nous avons pour pouvoir permettre l'ouverture des piscines.
Eh bien, merci infiniment d'avoir été avec nous, Nadia Hay, madame la députée, l'ancienne ministre de la Ville également. Merci et bon courage donc pour cette rentrée évidemment parlementaire qui d'ores et déjà s'annonce tendue, non ?
En tout cas, elle s'annonce très intense.
Exactement.
Merci beaucoup à Adil Serkan et à bientôt.
À bientôt.
Et bonne
rentrée plaisir
à tous nos auditeurs qui nous écoutent.
Merci. C'est noté, 18h13. Nous allons lancer la pub, mais surtout, il y a le standard qui est ouvert tout de suite, là, maintenant. Je voudrais vous entendre partout en France, venir nous dire évidemment ce risque. Est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices quand on parle évidemment de pénurie d'énergie, on parle de l'essence, on parle de gaz, on parle d'électricité. Est-ce que vous êtes prêts à faire des économies? Franchement, surtout qu'on est en train de nous dire, on est en train de nous annoncer la couleur, comme quoi, effectivement, on risque d'avoir une pénurie d'électricité cet hiver. Aïe, 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 ça va chauffer. C'est le moins qu'on puisse dire. 01 53 48 3000, je vous attends tout de suite pour réagir. L'essence, le gaz, l'électricité, est-ce que vous êtes prêts à faire des économies? Est-ce que vous êtes prêts à faire ces sacrifices? Notamment, autre sujet sur lequel je voudrais vous entendre, c'est la polémique du PSG. Mbappé, l'entraîneur Galtier, qui toise évidemment le journaliste, mais surtout en pleine polémique sur ses courts déplacements, les très courts déplacements. Au lieu de prendre le train, ils prennent le jet privé. Est-ce que c'est un exemple? Est-ce que finalement ces ultra-riches sont pas déconnectés de la réalité? 01-53-48-3000, je vous attends, à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
18h22, chers amis auditeurs, partout en France, je voudrais vous entendre le jingle. C'est parti les auditeurs.
01-53-48-3000, les informés vous donnent la parole.
Et là, franchement, je voudrais vous entendre parce que, très honnêtement, le PSG, avec Mbappé et l'entraîneur du PSG, qui méprise notamment le journaliste de LCI qui lui pose la question alors qu'on est en pleine crise énergétique, on réfléchit... Alors, regardez, écoutez bien la réponse. On réfléchit à se déplacer en char à voile. Clochette. Non mais franchement. Allez, on va écouter l'extrait. Je vous attends, le standard est ouvert. Je voudrais vraiment vous entendre. Est-ce que finalement Mbappé et Galtier, ils ont eu raison de prendre ça avec de l'humour? Ou est-ce que vous aussi, ça vous choque? 01 53 48 3000. Tout de suite, là, maintenant, échangeons avec vous. Et puis l'autre sujet, c'est la crise de l'énergie, notamment. Est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices carburant, gaz et puis électricité? Jusqu'où peut-on aller? 01 53 48 3000. L'extrait, tout de suite, en pleine conférence de presse du PSG.
Pour être très honnête avec vous, ce matin, on a parlé avec la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Voilà.
Non. Non, mais ça, c'est l'entraîneur du PSG. Hein. Si, ça s'appelle pas du mépris. L'insouciance climatique, chers amis, au sein du PSG, suscite la polémique. Pourquoi? Parce que tous les acteurs politiques s'insurgent depuis ce matin, depuis hier soir, ils s'insurgent en disant « Stop !» Il y a eu même des crachats, paraît-il. L'hallucinante, c'est comme ça que je qualifie cette conférence de presse complètement farfelue entre d'un côté Mbappé qui sourit, qui rigole, qui prend le truc à la légère, et puis de l'autre côté Christophe Galtier, l'entraîneur, qui remet de l'huile sur le feu en parlant du char, alors qu'ils sont à quelques kilomètres, je veux dire, du PSG, de là. Évidemment, on parlait du train, et puis la main tendue du dirigeant de la SNCF. Je vous attends tout de suite au standard. Est-ce que ça vous choque? Est-ce que le PSG n'a-t-il que faire du climat? Finalement, est-ce qu'il s'en fout du climat? Est-ce que le PSG n'est pas perché? C'est-à-dire, est-ce qu'à un moment, quand on est des ultra-riches, on est déconnecté de la réalité? Est-ce que c'est pas là la vérité aussi? 01 53 48 3000, je vous attends, tout de suite là, maintenant, au standard. Venez, Giovanni vous attend au 01 53 48 3000. Tout de suite, le standard est ouvert, je vous attends pour parler de ce premier sujet. Et puis sur la crise énergétique, les solutions pour éviter les coupures cet hiver. Vous le savez, je ne vous l'apprends pas, le ton a été donné par Emmanuel Macron, le ton a été donné en disant qu'il fallait faire des économies de 10%. Mais surtout, là où je vous apporte une nouvelle supplémentaire, c'est que Total est en train de nous dire, peut-être certainement, dans les prochaines semaines, eh bien, les stations vont être en pénurie de carburant. Alors là, on est en train de, quand même, bon, de frôler, évidemment, tout ce qui va devenir explosif dans les prochaines semaines. Safia de Paris, bonjour Safia.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Très bien, et vous?
Très bien, je vous remercie, vous nous appelez de Paris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Safia?
Je travaille en tant que chimiste dans une entreprise qui fait des composés électroniques.
Bon, ça se passe bien?
Ouais, tout va bien, Dieu merci.
Les gens du Mbappé et l'entraîneur du PSG, ils sont pas un peu déconnectés de la réalité?
Franchement, c'est une catastrophe, ça me révolte totalement. En fait, tous les matins...
Vous dites ça révolte, ça me rassure.
Pardon?
Ça me rassure, vous dites que vous êtes révolté, parce que le contraire m'aurait surpris.
Non, vraiment, c'est que moi j'ai étudié à Paris, et chaque jour j'avais 2 heures de transport aller, 2 heures de transport retour. C'est pas la mer à boire. J'ai survécu à ces allers-retours quotidiens. Ils ont certes un salaire disproportionné, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais c'est un peu se foutre de nos têtes, surtout nourrir directement au nez. Moi, je galère perso pour l'essence quotidienne quand je vais au boulot.
Ouais, c'est ça. Et, c'est ça qui fait mal.
Et là, on se dit, mais en fait, il n'y a même pas. Ok, ils ont des salaires qui leur permettent de faire ça. Et même l'aspect écologie, personnellement, j'en ai marre des personnes qui ne sont pas engagées. C'est qu'on a beau avoir le salaire qu'on veut, mais à partir du moment où on n'est pas engagé dans la vie, que ce soit dans la vie politique ou dans la vie sociale, et ça fait pas de nous une personne qui a des vraies valeurs. Surtout rire comme ça. Après, je peux comprendre que ce soit un rire nerveux, mais quand on est une personne médiatique, on doit avoir la bienséance et de pas se moquer de la tête des autres.
Safia, ils se sont attirés toutes les foudres.
C'est une catastrophe vraiment. Et je pense que ça devrait être un déclic, tout ce qui se passe en ce moment, que ce soit au niveau de l'écologie, au niveau de la hausse des prix, de tout, ça devrait être un déclic de se dire, mince quoi. Il y a des Français qui galèrent au quotidien.
Non, mais ce qui est marrant, c'est que, vous savez, ça fait assez que d'un côté, vous l'avez dit vous-même, vous venez de le dire. C'est ça qui est choquant, révoltant même d'ailleurs, vous l'avez dit le mot. C'est-à-dire que rigoler comme ça, quand on gagne des millions d'euros, alors c'est que ça. Le chef de l'État, Emmanuel Macron, demande, d'accord, de faire des économies pour cet hiver, de réduire le chauffage, de faire attention à l'eau, etc. C'est ça qui est indécent.
Mais en plus, ce n'est pas un cas isolé, parce que là, on l'a vu avec les ministres qui laissent leur voiture encore avec le compact. Ils fassent des meetings le matin à Paris, l'après-midi à Marseille et prendre un jet privé. Ça, encore une fois, c'est un peu de se moquer de notre tronche. C'est en fait, on se retrouve à nous payer alors que, machallah, en fait, ils ont l'argent. Et en fait, si tout le monde faisait un pas, on arrivera en fait à changer en fait tous ces problèmes écologiques. Après, moi, je considère qu'on est un peu dans une chute libre. Ouais. Si je puis dire, c'est que quoi qu'on fasse, on a épuisé la majorité, toutes les ressources là à l'heure actuelle que peut nous offrir la Terre cette année. Mais il y a toujours moyen de pallier. Les manques écologiques. Mais bon, après, comme ils disent, hein, l'argent, ça monte vite à la tête. Et là, malheureusement.
J'en veux vous poser une question, Safia. Vous pensez qu'ils sont déconnectés de la réalité?
En fait, je pense, surtout, en fait, son rire sarcastique, là, je pense qu'il a vraiment. Là, je parle de Mbappé en l'occurrence, il s'est vraiment détaché. Et en fait, en plus, j'en parlais avec mes collègues tout à l'heure, c'est des personnes, là je parle pas des footballeurs mais des politiques en général, c'est des personnes forcément qui n'ont peut-être pas de généralité, mais qui mettent des lois en vigueur, sauf qu'ils n'ont jamais été face aux situations. C'est-à-dire on peut faire des lois par exemple les critères là à Paris on a les critères je sais pas si on en a dans toutes les villes, mais par exemple si on n'a pas critère 1 on peut pas accéder à Paris, ça ok c'est une loi, mais si on a cette contrainte d'aller à Paris avec nos voitures, c'est pas des voitures qu'on peut changer tous les ans ou qui peuvent pas être changées avec les conditions critères. On peut pas, en fait, financièrement parlant, c'est pas possible.
Bon.
Donc, en fait, c'est ça qui est révoltant, c'est que ça englobe déjà de se moquer de la gueule des Français. Clairement, là, je tape pas mes mots. Et en plus, la question écologique, qui est pour moi maintenant hyper un sujet d'actualité. Du coup, je pense qu'en fait, il a juste là pour le coup, Mbappé, il a juste pas. Quand vous dites couper du monde, c'est totalement ça. C'est qu'en fait, peut-être qu'il ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer dans le monde, que là, notre terre, elle est en train de souffrir et qu'on a plein de toutes les ressources qu'on a pu utiliser, elles sont utilisées, quoi. Et en fait, je pense qu'il ne s'est juste pas rendu compte de ça. Mais en fait, je pense que là, l'acharnement médiatique qui est autour de ça, ça lui fera ouvrir les yeux. C'est pas plus mal.
Si, je pense aussi. Safia, très pertinent ce que vous venez de nous dire, effectivement. Si vous êtes comme Safia, révolté.
C'est juste c'est l'énervement, je pense, qui me met hors de moi. Mais je trouve ça totalement injuste parce que c'est du vrai foutage de gueule, hein, vraiment. Là, en fait. Je suis crescendo dans mon discours. Au début, je mettais les formes, mais là, plus du tout.
Vous avez bien raison. Et c'est ici que ça se passe aux informés. Merci, Safia de Paris. Et bon courage à vous. 01 53 48 3000. Vous nous appelez, vous continuez de nous appeler, justement, pour réagir face à, évidemment, à cette tête. Polémique qui enfle, les acteurs politiques s'insurgent. De l'autre côté, évidemment, sur les réseaux sociaux, eh bien, on se moque. Les internautes sont choqués, révoltés. Parfois, évidemment, complètement. J'ai pas envie d'utiliser les mots que je regarde, mais ça insulte quand même. 01 53 48 3000, le face-à-face, c'est parti.
Les informés. Le face-à-face.
Et le face-à-face, bien sûr, je continue de vous récupérer. Je vous attends au standard au 01 53 48 3000. Emmanuel Dupy, bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va, le président de l'IPSE?
Ravi de retrouver les auditeurs. Rudy, que je n'ai pas vu depuis très longtemps.
Oui, Rudy.
C'est très plaisir de le revoir aussi.
Rudy Kazik est un acteur politique, bonjour.
Bonjour Adil.
Comment ça va?
Très bien, content de vous revoir, de revoir Emmanuel, de revoir Giovanni.
Et les auditeurs.
Et d'entendre les auditeurs.
Voilà, ils sont remontés comme des coucous, c'est bien.
Ils sont remontés.
Les gens raison. Qui restent à l'antenne pour répondre à cette...
Bah, elle nous écoute.
Elle nous écoute, vous pouvez lui répondre. Allez-y.
Oui, alors après, si vous me lancez en même temps sur le sujet...
Non, allez, allons-y, parlons du PSG, justement, c'est le premier sujet. 01-53-48-3000, je continue de vous accueillir au standard. Là, maintenant, Giovanni vous attend au 01-53-48-3000. Faites exploser le standard, on voudrait vous entendre sur Mbappé, et puis surtout sur l'écologie et le climat. Est-ce qu'ils ne sont pas complètement déconnectés de la réalité? Polémique du char à voile aussi, notamment, le PSG peut-il réellement voyager en train pour ses déplacements? Allez, moi, parlons-en de cette polémique.
Je trouve quand même qu'on tape assez facilement sur les footballeurs. Là, en aucun cas, je disculpe la boutade à peine coupable de Galtier. C'est surtout Galtier en fait qui a tenu ce propos et Mbappé en a ri parfois, peut-être un rire un petit peu forcé. Effectivement, c'est une erreur de s'être exprimé de la sorte.
Forcé ou nerveux?
Ou forcé ou nerveux. Je pense que c'est une erreur de s'être exprimé de la sorte, surtout compte tenu de la conjoncture actuelle, de la crise de l'énergie.
Mais surtout que le président de la République s'était exprimé il y a quelques heures avant.
De l'abondance, effectivement, cité par le président de la République. Bah, oui. Mais, j'aimerais quand même dire que les footballeurs sont souvent ceux sur lesquels on tape assez facilement, alors que la crise que l'on vit aujourd'hui, en l'occurrence, les footballeurs n'en sont pas, c'est pas eux qui ont provoqué ces choses. Par rapport aux crises que l'on peut vivre sur le plan énergétique, il y a quand même des soucis qui sont récurrents. Avant même, en fait, l'augmentation du prix du gaz due à ce qui se passe en Ukraine, ça fait des années que le prix du gaz augmente, que l'énergie augmente. Les mêmes politiques qui demandent à ce qu'on puisse faire des efforts, eux aussi sont ceux qui bénéficient aussi de transports qui augmentent, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. Je trouve que c'est un peu facile de taper là-dessus. Alors après, effectivement, bon, Mbappé, il a une affaire qui lui prend peut-être quand même un petit peu la tête avec l'affaire Pogba, etc. Et quand même, faut se dire que il se concentre. Enfin, c'est vrai qu'ils vivent dans une certaine bulle. Voilà. Après, effectivement, c'est quand même bien de les ramener un petit peu sur terre pour qu'ils se rendent compte aussi des enjeux que vivent les Français aujourd'hui. Mais taper sur les joueurs de foot, c'est un peu aussi caché.
Mais c'est pas taper. Mais Rudy Kazi, c'est pas taper sur les footballeurs. C'est simplement la manière dont la question.
Non, mais je suis d'accord sur ça. Je l'ai bien dit. Ils auraient pas dû réagir ni répondre de la même manière. Peut-être une dernière chose, parce que
c'est plus que de la maladresse.
Alors quand même, à la base, c'était un peu ironique la proposition que le responsable de la SNCF avait faite. Et oui, c'est dans l'ironie exagérée, j'en conviens, que Galtier a répondu. Mais maintenant, sur la faisabilité de ces choses, est-ce que vous imaginez que l'ensemble des équipes de Ligue 1, qui sont au nombre de 18, se déplaceraient avec un contingent de 20-30 personnes tous les week-ends, parfois deux fois par semaine, partout en France comme ça? C'est des déplacements assez difficiles à organiser sur le plan sécuritaire. À tous les niveaux, c'est pas simple à faire. Ensuite, alors après, on est d'accord ou pas, aujourd'hui, il y a la Coupe du Monde. Ça veut dire qu'il y a une augmentation de la fréquence des matchs de foot en France et en Europe qui oblige les joueurs à jouer tous les deux, voire tous les trois jours. C'est assez ubuesque. C'est un autre sujet. Ça, c'est par rapport à la FIFA, etc. Mais si vous voulez, le voyage en avion permet une récupération plus facile, en fait, des footballeurs. Tandis que les voyages en train sont souvent retardés. Et pour aller à Marseille, c'est quand même 3 heures, voire un peu plus. Donc après, faut voir, est-ce qu'il y a des trains qui peuvent faire le direct, etc. Ça n'existe pas sur toutes les lignes. Il y a des lignes qui sont, par exemple, Paris-Amiens n'est pas pourvu d'une ligne à haute vitesse.
Je fais la pub.
Donc c'est...
Pub, Emmanuel Dupuy, je vous donne la parole. Pardon, et puis on l'a Hakim, chauffeur de taxi, justement, qui nous appelle, qui est parisien. Lui aussi, je voudrais le faire intervenir à l'antenne. 01-53-48-3000, continuez de nous appeler.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 18h-19h30, Les informés, présentés par Adil Farkan.
Et notamment le face-à-face avec Emmanuel Dupuy, avec Rudy Kazi. Et je peux vous dire que ça débat grave.
Avec beaucoup d'amour et de respect.
01 53 48 3000. Les informés vous donnent la parole.
En un petit instant, je donne la parole notamment à Hakim, le chauffeur de taxi, et puis un autre Hakim aussi qui nous appelle, un deuxième de Paris. Emmanuel Dupuy, alors qu'est-ce que vous pensez de cette affaire?
Je trouve que cette affaire est absolument impardonnable du point de vue...
Clochette! Oui, pourquoi?
De ceux qui l'ont provoqué. Premièrement, elle est impardonnable parce que la réponse n'est pas digne. On ne répond pas avec une sorte de colibé à un journaliste qui pose une vraie question qui était parfaitement compréhensible. Paul Larouturou a fait son travail. D'autant plus que c'est pas la première fois que la
Paul,
question...
c'est le journaliste.
Paul Larouturou, c'est le journaliste du Figaro.
De LCI.
D'autant plus que c'est pas la première fois que la question est posée. La SNCF, depuis maintenant près d'un an et demi, fait une proposition au PSG que le PSG a rabattu d'un revers de main, à savoir de faire un petit peu comme tout le monde, de s'adapter à une offre commerciale. C'est vrai que Paris-Nantes en avion, ça met une heure, et Paris-Nantes en TGV, ça met deux heures. La belle affaire, une heure de plus. Et de ce point de vue-là, pour répondre à Rudy, on peut parfaitement privatiser des trains. Après tout, les 1000 parlementaires européens et leurs assistants le font bien chaque mois pour aller de Bruxelles à Strasbourg.
Une seule ligne. Bruxelles-Strasbourg. Là, on ne parle pas de tout le réseau français.
Non, mais là, il
y a certaines lignes qui ne sont pas pourvues.
Il n'est pas question, il n'est pas question de faire déplacer l'ensemble de la planète. Il est question de faire déplacer quelques équipes qui, ponctuellement,
18 équipes de Ligue 1, un staff de 20, 30 personnes.
Bon, alors, donc ça veut dire quoi? Il y a trop d'équipes de Ligue 1, c'est ça?
Ben non, c'est pas ce que je dis.
Non, moi je réponds. Alors, c'est vrai, parce qu'il y a peut-être trop d'équipes en Ligue 1.
Peut-être que c'est une question.
Alors ensuite, la polémique. Alors premièrement, la polémique, elle est focalisée sur Kylian Mbappé. Après tout, Kylian Mbappé n'a pas répondu. Il a juste rigolé. Le vrai responsable, c'est Christophe Galtier, qui a eu une réponse qui me semble indigne, au sens propre comme au sens figuré, de ce que doit être un entraîneur d'une équipe de football, quel que soit la nature de cette équipe de football.
Il aurait pu
répondre autrement, en disant que c'est évidemment quelque chose auquel il réfléchit. C'est d'autant plus cynique qu'il y a quelques heures, il a totalement changé d'attitude quand il a répondu à la ministre des Sports en disant « Oui, vous avez raison, le PSG va rentrer dans cette logique ». Donc je trouve que cette réponse à l'emporte-pièce n'honore pas ceux qui l'ont posé. Deuxièmement, la question, à mon avis, de la sobriété des transports ou la sobriété énergétique, évidemment, incite à réfléchir à la manière dont le statut des responsables politiques, des responsables sportifs, doit être pris en cause. Ne minorons pas la chose, Kylian Mbappé a une influence. Sa voix, ses propos portent.
Bien sûr.
Et moi, je suis là dans une logique où je vais un petit peu dériver sur la question. Depuis maintenant quelques mois, on voit que les responsables sociétaux prennent la parole. Vincent Lindon, sur le plateau de C'est à vous, a évoqué un certain nombre de réflexions qui sont parfaitement honorables et qu'il a raison de porter. Timothée Chalamet, l'acteur, l'a évidemment fait, ce qui nous ramène au rôle dans la société des responsables d'influence, les acteurs d'influence que sont les responsables politiques, que sont les responsables associatifs, les acteurs et évidemment, bien évidemment, les joueurs de football, surtout quand ils sont populaires.
Ce qui est souvent c'est déjà le cas de Mbappé.
Oui, enfin c'est le cas de Mbappé, mais c'est nouveau.
Je pense qu'il a commis un impair.
C'est nouveau en France. Hein.
Rappelez-vous que Mbappé avait demandé à renégocier les contrats avec les sponsors.
C'est quelque chose qui est beaucoup plus fréquent. Beaucoup plus fréquent dans le monde anglo-saxon, mais qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Alors, deuxièmement, la responsabilité du club est engagée. C'est pas tellement Christophe Galtier en tant qu'entraîneur ou Kylian Mbappé comme responsable politique. Mais c'est évidemment le club. Après tout, l'avion affrété l'a été par l'État qui soutient financièrement le club, en l'occurrence le Qatar, puisqu'il s'agissait bien d'un avion privé affrété par le Qatar, en l'occurrence un avion de Qatar Airways qui avait été donc privatisé. Je rappelle que le PSG est propriété d'un État, le Qatar. Et donc ça pose une question. Qatar,
j'ouvre l'antenne.
Évidemment.
Le Qatar a beaucoup d'investissements.
Je termine juste d'une phrase. Comme Rudy parle en même temps que moi, alors que moi je ne l'ai pas parlé, j'ai l'impression que c'est un peu disproportionné et que mon propos n'est pas entendu. Alors je le redis.
Si, je vous rassure qu'il est bien entendu.
Je le redis. Je trouve ça scandaleux. Je trouve que les responsables politiques, sociétaux et les citoyens ont raison de s'insurger. Alors je tombe pas à bras raccourcis sur le monde du football. Merci. Et ça donnerait l'impression que les footballeurs doivent être sortis de la société auquel ils appartiennent.
Non, bien
ils
bien.
Ont le droit aussi à l'exemplarité et je trouve qu'ils ne l'ont pas été.
Mais il faut pas taper que
direction
les footballeurs.
Absolument. Direction le standard 01 53 48 3000. Il y a un autre chauffeur de taxi qui s'appelle Hakim. Bonsoir mon cher Hakim.
Bonsoir,
comment allez-vous? Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire, de cette polémique du PSG, Kylian Mbappé, l'entraîneur Christophe Galtier, et puis le climat, le jet privé, le train, Les voiles,
voile. Voilà. Moi, je trouve qu'on en fait beaucoup sur, sur cette affaire. C'est, comment dire, on tape beaucoup sur Mbappé, sur Galtier, sur l'entraîneur. Et le problème, c'est que, comment dire, lorsqu'il y a des hommes politiques qui partent en jet privé pour un déplacement qu'ils peuvent faire aussi en train, ça fait pas tout ce débat-là, en fait. Vous voyez ? C'est pour ça. Après, pour ce qui est des déplacements, c'est le jour où ils vont aller en train, on va privatiser un train, et ben ça va être pareil. Ils vont venir, il y a ceux, les usagers du train, ils vont dire oui, c'est pas normal, ils ont un train pour eux tout seuls, alors qu'on aurait pu mettre des clients à l'intérieur, et puis voilà. Vous voyez ? Il y a ce problème-là aussi. Et après, le problème qui peut venir aussi, c'est... ils partent en jet privé, mais c'est pas tous les déplacements qui font en jet privé. Il y en a certains qui font en car. Et ça, on va pas dire que c'est bien ou quoi que ce soit. Vous voyez, on voit toujours le côté négatif et pas le côté positif aussi.
Merci de le rappeler. C'est vrai. C'est vrai, vous avez raison. Donc, vous avez raison, Hakim. Il va dans le sens de Rudy Kazi.
C'est que du bon sens.
Oui, bah oui. Lui, il est là pour entraîner. Il est pas là pour faire les décisions de déplacement ou quoi que ce soit. Ça, c'est, on leur dit, tu prends l'avion. Donc lui, il va chercher l'avion. Et c'est tout, quoi. Après, il a dit de faire son ironique, histoire de faire un peu amuser la galerie. Il est comme ça. Après, bon, la réponse, elle a pas plu. Aujourd'hui, tout le monde fait attention à l'écologie. Et il y a beaucoup d'autres personnes qui font pas attention, alors qu'ils devraient faire plus attention aussi, quoi. Et pourtant, on leur montre pas du doigt.
Qu'est-ce que vous dites, Rudy?
Je dis, même en faisant une boutade, il aurait pu rattraper le coup derrière en expliquant, voilà, la difficulté du déplacement, etc. Après, ça aurait pas justifié tout, évidemment. Ça ne leur aurait pas donné un blanc-seing sur toutes les décisions de déplacement. Mais au moins, ça aurait recontextualisé les choses. Parce que du coup, la polémique qu'ils se prennent en pleine face, elle est justifiée par une forme d'arrogance qu'ils ont manifestée. Mais je déplore effectivement qu'on tape, principalement sur les footballeurs dans ce genre de situation, alors que c'est peut-être parce que les hommes politiques ont la rhétorique, ils ont, mais la plupart des hommes politiques jusqu'à aujourd'hui, en France, en l'occurrence, après, du côté de Bruxelles, c'est très bien qu'ils le fassent, mais en l'occurrence, en France, ils se déplacent partout, ils se déplacent à Paris, intramuros, en voiture, chauffeur, etc. Donc,
avec la garde de police, ils se déplacent, je pense que, juste avec la sécurité, la voiture, tout ça, ils se déplacent beaucoup. Il pollue plus que n'importe qui déjà.
Et on parle beaucoup effectivement des gaz à effet de serre qui sont voilà, qui s'échappent dans l'atmosphère par rapport aux avions, mais il y a aussi les microparticules des trains dont on parle quand même assez peu et qui causent souvent des gros problèmes.
C'est pas le débat.
Vous savez qu'on va supprimer des trains là dans les prochaines semaines.
Hein. Encore une fois, c'est pas le débat.
Justement, dans le cadre de la crise énergétique.
Et personne ici, en tout cas dans ce plateau, ne voudrait que l'on se déplace en char à voile ou en carriole. C'est pas le débat. Le débat, c'est une équipe de football qui a deux choix. Un choix qui est plus économe en carbone et un choix qui est plus dispendieux. C'est aussi simple que ça. Mmh. Et la manière d'éluder le débat en disant « Nous, qui sommes nantis, nous n'avons pas rentré dans ce débat » est le problème. C'est pas tellement qu'ils se soient déplacés en avion, mais qu'ils ne comprennent pas que l'on peut s'interroger sur le fait qu'ils se déplacent en avion. C'est ça la vraie question. Parce que si tout le monde est amené de manière équitable à, non pas se serrer la ceinture, ce serait peut-être exagéré de ma part, mais en tout cas à faire des efforts, je ne vois pas pourquoi certains, parce qu'ils auraient un statut particulier, en seraient exemptés. C'est ça le vrai problème et le fond du problème.
Je n'ai jamais à aucun moment donné l'impression que je n'étais pas d'accord avec ça.
Le problème,
moi je parle de la polémique qui
vient du fait qu'ils se considèrent que ce n'est pas un débat qui les concerne, car ils sont privilégiés au sens littéral du terme. C'est ça le vrai problème.
Je n'ai pas dit qu'ils n'étaient pas déconnectés. Je l'ai dit, je connais suffisamment le foot pour le savoir. Il y a plein d'autres sujets sur lesquels, même des sujets d'actualité aujourd'hui, qui le démontrent. Ce que je trouve quand même déplorable, ça veut dire que je vais dans ton sens, mais j'ajoute quelque chose. Je dis par contre qu'on a une facilité à taper sur les footballeurs parce qu'ils ont toujours ce statut d'être un peu niais, pas au fait des choses, etc. On respecte les footballeurs parce qu'ils ont de l'argent, mais d'une certaine manière, on les prend pour des enfants gâtés et ça justifie parfois les raisons pour lesquelles ils se font taper durement. Je rappelle Castex, il avait été taxé pour ces choses-là. Ça n'a pas fait une polémique aussi tous azimuts qu'aujourd'hui. Manuel Valls aussi. Et jusqu'aujourd'hui, il y a des hommes politiques français qui continuent d'utiliser des moyens de transport qui participent à l'augmentation des gaz à effet de serre.
Hakim, avant de lancer la pub.
Oui. Bah, il y a aussi Là, c'est parce que c'est Paris Saint-Germain et c'est Kylian Mbappé qui est dessus. On n'a pas fait la même histoire quand c'est Marseille qui se déplace en avion ou bien une autre équipe qui se déplace en avion.
C'est vrai, ouais, c'est pas faux aussi.
C'est parce que Mbappé, c'est vraiment quand même, le PSG, Kylian Mbappé qui est représenté aussi.
Cher Absolument. Mbappé est quand même aussi assez regardant sur ces questions-là. Là, je pense qu'il a commis une erreur, mais à la base, c'est même quelqu'un qui avait voulu
je lance négocier la pub. Les contrats de Merci Coca, Hakim, merci à vous, cher Hakim, d'être intervenu. 01-53-48-3000, le standard doit continuer d'exploser. Appelez-nous, on voudrait vous entendre sur cette question, sur ce sujet. Notamment, on marque la pause pub. À tout de suite, ne bougez pas, restez avec nous.
Les informés reviennent dans un instant. Beur FM, 18h-19h30, les informés, présentés par Adil Farkan.
Avec Emmanuel Dupuis et Rudy Kazi, énergie, autre sujet qui a retenu notre attention aujourd'hui. Il y a un risque de pénurie d'électricité cet hiver, justement l'hiver prochain. On en parle de plus en plus avec la crise énergétique que vit actuellement la France. Eh bien, les tarifs d'électricité ont fortement augmenté, la hausse des prix est plus importante. Bref, des inquiétudes sont pointées du doigt de plus en plus avec ce risque de pénurie l'hiver prochain. Alors, on est en train de voir un scénario qui s'esquisse, avec notamment peut-être certainement des coupures. On parle aussi de gaz, on parle de carburant. Bref, messieurs, je voudrais vous entendre. Peut-on s'inquiéter pour cet hiver, notamment quand on parle de pénurie d'électricité, Emmanuel Dupuis?
Non. Pour cet hiver, non. 90% de notre réserve en termes de gaz est remplie. Enfin, on a notre capacité de réserve à hauteur de 90%. Peut-être l'hiver prochain, ça se posera autrement. Deuxième élément, pour l'instant, le bouclier fiscal que propose le gouvernement. Les 18 centimes qui ont été rehaussés à 30 centimes jusqu'au 1er novembre et les 12 centimes du 1er novembre jusqu'au 31 décembre garantissent un minima, un soutien de l'État par rapport à un prix de l'essence et accessoirement peut-être demain du chauffage qui est garanti par l'État. Maintenant, la question c'est est-ce qu'on va pouvoir tenir longtemps ? La preuve en est que non, si l'on prend l'exemple allemand, où les Allemands, du jour au lendemain, ont arrêté l'aide pour les ménages et les prix ont explosé. Le prix de l'électricité, le prix du chauffage.
Sauf que les Allemands ont planifié suffisamment à l'avance.
Beaucoup moins que nous. Ah non, leurs réserves sont beaucoup moins remplies que nous en termes de gaz. Hein. Après, il y a une autre question qui est pas celle que vous posez, mais qui mérite d'être posée. C'est en gros de dire si la situation que nous vivons est une situation qui était anticipable. Et là, pour le coup. La crise ukrainienne, je reprends le propos qu'a utilisé Rudy tout à l'heure, elle a un peu bon dos. C'est pas à cause de la crise ukrainienne qu'on se retrouve dans cette situation. Je rappelle que Nicolas Hulot avait décidé de porter le mix énergétique qui est à 77% gagé par le nucléaire à 50%. On a fermé déjà on prévoit de fermer 6 réacteurs et on en a déjà démantelé 6 et il est prévu qu'on en ferme 12. Donc la question, c'est est-ce qu'on n'a pas pris des mauvaises décisions alors même que l'on pensait que la question gazière ne se poserait pas. Et donc c'est une question de responsabilité politique. Et de ce point de vue-là, force est de constater que l'on peut dire tout ce que l'on veut, mais que le nucléaire nous mettait à l'abri plus que les Allemands, plus que d'autres. Or il se trouve qu'on a voulu démanteler la filière nucléaire. Une autre polémique a jailli quand le PDG d'EDF, Jean-Daniel Lévy, a posé cette question à l'occasion donc de la réunion des entrepreneurs de France et il s'est fait vertement tancer par le président de la République quand ce même PDG d'EDF a expliqué que on lui avait demandé.
Mais c'est quoi ça veut dire concrètement pour cet été? Ça veut dire halte au gaspillage? Ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire surtout est-ce qu'il faut mettre un terme à tout ça?
Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, il faut revenir sur la décision de démanteler notre parc nucléaire qui nous mettait à l'abri de cette situation.
01-53-48-3000, je voudrais vous entendre, chers amis auditeurs, notamment sur cette pénurie. Est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices, Rudy Kazi?
Ce qui me dérange aussi, pour être totalement nuancé, je pense que tout le monde doit faire des sacrifices. Vous savez, quand il y avait eu la crise à Fukushima, le gouvernement avait trouvé des alternatives avec des discours vis-à-vis de la population qui a permis à ce que la population aussi suit le jeu. Vous me direz, on est au Japon, voilà, il y a une certaine, on va dire, une appétence pour l'intelligence civile. Donc je pense qu'effectivement, la population doit être concernée par cette situation. À côté de ça, il y a effectivement le président qui a proposé voilà, de comment dire, de faire des prélèvements sur les entreprises qui ont fait des bénéfices assez importants, notamment dans l'énergie renouvelable ou notamment dans les centrales de gaz. Ça peut s'entendre, mais je trouve qu'effectivement cette mesure elle est un peu particulière dans la mesure où ces entreprises, notamment pour le nucléaire, sont déjà des entreprises qui donnent beaucoup à l'État. La majeure partie des bénéfices entrent dans les caisses de l'État. Ensuite, toujours demander effectivement à la population de jouer le jeu. Finalement, c'est faire reposer sur elle, je dirais pas la responsabilité, mais la comptabilité des inactions prises vis-à-vis de l'augmentation tarifaire. On en parlait tout à l'heure. J'avais le chiffre en tête, 50% de l'augmentation du prix du gaz, notamment en janvier 2021. Et donc, du coup, partant de ce principe-là. C'est la population qui in fine subit toujours en fait et les augmentations et l'obligation de devoir serrer la ceinture, etc. Donc derrière, qu'est-ce qu'on peut faire?
Bah, oui.
Moi ce que je pense qu'il faut davantage
d'anticipation. Mais surtout, est-ce que la France aura-t-elle suffisamment de gaz pour cet hiver?
Non, je pense que la France elle aura suffisamment de gaz parce que de toute façon notre on n'est pas dépendant du gaz particulièrement en France. Je crois que ça représente
17.
Pas 20, 10, ouais, voilà, à peu près j'allais dire 20% de la consommation d'énergie en France, mais beaucoup d'entreprises utilisent le gaz en fait, le gaz électrique du moins. Et donc ça va contraindre effectivement les Français à faire plus, mais une fois qu'on a dit ça, c'est quand même ce qui est important de dire, c'est que il faudrait que le gouvernement ou les gouvernements puissent faire un petit peu plus de prospective pour prendre un mot qui est cher à Emmanuel, pour encadrer encadrer une augmentation du coût de l'énergie qui augmente depuis des années et tous les ans. Alors c'est bien effectivement de les encadrer en 2021 pour pas qu'il y ait cette augmentation en 2022 et de mettre le bouclier tarifaire pour que peut-être jusqu'en 2023, mais c'est des mesures coercitives limitées dans le temps. À un moment donné, il faut un peu plus de vision, il faut anticiper les choses, et comme je le disais tout à l'heure, la guerre en Ukraine, j'irai pas jusqu'à dire, bon, oui, je l'ai dit tout à l'heure, elle a un peu bon dos à partir du moment où on la tient pour responsable de l'augmentation de l'inflation, notamment du coût de l'énergie. Non.
Et Emmanuel Dupuis
dit ça a augmenté déjà depuis un certain temps. Donc alors effectivement, il est question aussi d'indépendance énergétique. C'est ça aussi la question qui est soulevée par rapport à la guerre en Ukraine, par rapport à la Russie, enfin en tout cas ce partenaire financier. La question de l'indépendance énergétique se trouve dans notre parc de centrales nucléaires qu'on a démantelé peu à peu. Je crois qu'on était un peu plus de 70.
77.
En 2023, on sera descendu à une trentaine de centrales nucléaires. Donc alors et en plus, voilà, sensiblement. Et d'autant plus que pourquoi? Mais en fait, les gens ne savent pas. Mais c'est parce qu'en fait, il y a des problèmes de travaux, de mise aux normes, etc., qu'on aurait pu accélérer pour permettre à ce qu'il y ait davantage de centrales nucléaires, qui nous auraient permis d'amoindrir.
Finalement, messieurs, je voudrais entendre nos auditeurs nous appeler au standard au 01 53 48 3000. Est-ce que vous êtes prêts à faire des sacrifices, notamment pour cet hiver? Est-ce que le message passe auprès de vous? Les sacrifices qu'on vous demande, notamment les 10% de réduire votre quotidien avec le carburant, le véhicule, l'électricité, le gaz. Est-ce que vous le pratiquez déjà ou est-ce que vous êtes prêt à faire ces sacrifices? Les Français sont prêts à jouer le jeu, Emmanuel Dupuis?
Oui, alors les Français sont prêts à jouer le jeu, mais il ne faut pas non plus les prendre pour des idiots, si j'ose m'exprimer ainsi. Premièrement, parce qu'il faut que chacun sache que nous sommes tenus de donner une partie de notre énergie dans le cadre du marché européen de l'énergie. Et donc, ça veut dire que même si nous sommes appelés à la sobriété énergétique, nous le serons encore plus parce que nous allons devoir donner, par solidarité, une partie de notre production électrique, une partie de notre surproduction électrique, eu égard à l'efficacité de notre production nucléaire. Donc, évidemment, on peut penser que c'est totalement ubuesque de se situer dans une situation où on va demander aux Français un peu de sobriété, alors que nous pourrions ne pas être dans cette sobriété si les choix politiques avaient été faits. On l'a évoqué, la prospective. Après tout, je confirme ce que dit Rudy. Nous avons en France 56 réacteurs nucléaires. 12 sont désormais fermés. 6 sont en démantèlement. Et dans le même temps, on appelle à la construction de 6 nouveaux. Donc ça peut paraître paradoxal. Sobriété d'un côté, alors que on a de quoi électrifier la France. Le problème, c'est que ce sont des choix politiques, avec un certain nombre d'élus qui décident de ne pas profiter de cette manne énergétique. Moi, je veux bien que le mix énergétique soit un objectif. Je veux bien que les énergies renouvelables remplacent l'énergie nucléaire. Sauf qu'il y a une logique d'efficacité. Et c'est pas le cas. L'énergie solaire les énergies hydromotrices ne peuvent pas remplacer le nucléaire. Je dis pas que le nucléaire est écologique. Je dis juste qu'il est efficace et il permet une sorte de bouclier qui permet aux Français de payer leur électricité bien moins que ne le payent les Allemands.
01 53 48 3000. Je vous attends au standard pour répondre évidemment à ces sujets que je vous soumets. À la fois la pénurie d'énergie, est-ce que vous êtes prêt à faire des sacrifices? Et puis la polémique du PSG avec Mbappé et l'entraîneur du PSG qui ont provoqué cette polémique qui ne cesse d'enfler concernant évidemment l'environnement, le climat, le jet privé et la réponse de l'entraîneur évidemment qui se fait avec les acteurs politiques qui s'insurgent concernant cette réponse.
Je voulais
01 53 48 3000.
Très rapidement, en fait, paraphraser ce que disait Emmanuel, mais aussi peut-être rajouter un petit peu de l'eau au moulin par rapport à notre conversation, par rapport au PSG tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même se rappeler que sur l'année 2021, il y a eu plus de 174 milliards de bénéfices des sociétés du CAC 40. C'est pas du tout une accusation, tant mieux pour eux, mais c'est un record. Et parmi ces sociétés, Total, qui a fait plus de 5 milliards de bénéfices, record. On parle quand même d'une société qui, en fait, voilà, qui est dans l'extraction d'énergies fossiles, qui sont aujourd'hui coiffées au pilori par rapport aux questions, effectivement, de pollution, etc. Et dans le plan d'Emmanuel Macron, effectivement, de faire des prélèvements auprès de certaines entreprises, moi, je pense que Total, avec c'est plus de 20% à peu près d'augmentation des dividendes, pourrait faire partie de ces entreprises qui pourraient alléger, on va dire, l'effort de contribution fait par les Français.
Voilà, alors, quand Emmanuel Macron a dit la solution est entre nos mains.
Bah, c'est paradoxal parce que dans le même temps, il souhaite privatiser totalement EDF et donc la mettre de manière exorbitante de cette logique. Donc c'est pas logique. La position est une position purement populiste, une décision purement populiste de la part du président. Électoraliste et populiste. D'ailleurs, je rappelle qu'il a fait cette proposition alors même qu'il était en campagne électorale.
Faut-il d'ailleurs privatiser EDF?
On peut se poser la question puisque EDF est déjà propriété de l'État à 84%.
C'est le patrimoine.
C'est le patrimoine, c'est le fleuron et en général les politiques de privatisation se soldent pas forcément par des belles réalisations.
Hein, totalement public.
Alors pourquoi le gouvernement adopte le ton grave?
Tout simplement
pour quand je vous écoute parler, Français. Vous dites oui, on est confiant, on a des stocks de gaz. Tout va bien, vous inquiétez pas pour cet hiver, nous ne vivrons pas cette pénurie. Et le gouvernement, il garde ce ton en permanence,
deux réponses,
un ton grave.
Une réponse d'une certaine façon.
Et je voudrais entendre les auditeurs aussi.
Je fais l'avocat du diable. Le gouvernement comprend que ça ne concerne pas que l'hiver prochain, mais que ça va durer longtemps. Et donc du coup, il anticipe et il inscrit ou il insère, il enquiste dans l'esprit des Français un sentiment d'adaptation contrainte à une réalité géopolitique qui est celle, pas seulement liée avec l'invasion de la Russie, mais la nécessité d'être moins dépendant à une énergie carbonée, enfin une économie carbonée, et d'être moins dépendant vis-à-vis de pays, aujourd'hui la Russie, peut-être demain d'autres pays dont nous redevenons dépendants. Les États-Unis avec le pétrole et le gaz de schiste, ou l'Algérie, d'où nous espérons augmenter l'Algérie, la Norvège ou le Qatar, pour ne pas focaliser que sur l'Algérie. C'est la réponse la plus positive. La réponse négative, c'est une réponse très populiste, en se disant que c'est une façon de montrer que le gouvernement tient compte de l'évolution de l'opinion publique et qu'il fait tout pour se protéger ou pour minorer sa responsabilité qui, je le rappelle, est beaucoup plus lourde que le simple impact de la guerre en Ukraine.
Ouais.
Rudy.
D'autant plus que on a quand même aussi un gouvernement qui est en capacité de montrer une incapacité à pouvoir se projeter dans le futur parce que.
Ah, vous croyez?
Oui, parce que finalement les mesures dont on parlait, les boucliers tarifaires, etc.
Est-ce que c'est l'objet? Est-ce que le gouvernement doit se projeter vers le futur?
Évidemment. C'est la responsabilité d'un gouvernement.
Mais évidemment.
Il doit traiter les dossiers urgents.
Surtout qu'on est élu pour 5 ans.
Non, mais déjà, et puis en plus, on parle quand même d'une inflation qui est galopante depuis un certain temps, surtout sur les prix, en matière d'énergie. Et la guerre en Ukraine et tout au moins ses conséquences économiques sur l'Europe et sur une partie du monde. On ne sait pas encore quand est-ce que tout cela va s'arrêter. Donc à partir de là, on est obligé de faire de la prospective. On est obligé de se projeter. On est obligé de mettre en place une vision géoéconomique ou géopolitico-économique, comme vous le souhaitez, de façon à protéger les Français par rapport à ça. Donc alors après, je ne suis pas, moi, un spécialiste d'économie, mais je réfléchis quand même. Je me dis que les Français ont bon dos d'être ceux sur lesquels, effectivement, on demande toujours de faire des efforts, etc. Et c'est pareil un petit peu, même pour les retraites, etc., dans un degré un petit peu différent. Mais on a quand même, par exemple, la ministre de l'économie qui a été capable de dire à l'université d'été qu'il ne savait pas ce que c'était que les super profits. Je ne suis pas en train de dire que, du coup, la finance doit être notre ennemi. Moi, je ne suis pas du tout de ceux qui pensent ça. Mais je pense qu'à partir du moment où on veut construire un environnement économique qui permet aux Français de cesser d'avoir la corde au cou, la contribution venant en fait des entreprises qui sont en capacité je parle pas des petites et moyennes entreprises qui sont ceux qui font vivre l'économie intérieure. Je te parle de ceux qui délocalisent, je te parle de ceux qui font des profits à l'international, ou par exemple Total en France, on produit pas de pétrole par exemple, tu vois. Donc moi je pense qu'à un moment donné et aussi, ce sont ces entreprises qui fixent les prix. Par exemple, on parlait des centrales de gaz qui fixent les prix et qui les fixent à un prix assez exorbitant. C'est aujourd'hui qu'Emmanuel Macron pense qu'il faut parler avec ces entreprises pour leur demander de figer les prix du gaz. Mais pourquoi est-ce qu'on le fait aujourd'hui ? Il y a longtemps qu'on aurait dû le faire. Moi, je connais une famille qui a eu des difficultés à payer l'électricité et EDF ont dit... On va baisser en fait votre niveau de consommation d'énergie. Vous aurez juste peut-être à pouvoir brancher une plaque à induction, etc. Ils l'ont fait et cette famille continue de vivre bien à utiliser l'énergie. Donc il y a aussi une spéculation autour de l'énergie, que ce soit du gaz électrique ou autre, qui quelque part se retrouve à être comme des non-dits, des choses dont on n'informe pas vraiment les Français, mais in fine ce sont les Français qui payent le plus là-dedans.
La polémique qui continue d'enfler en pleine crise énergétique, avec cet humour qui ne passe pas du tout, je fais référence à cette conférence de presse où Kylian Mbappé et l'entraîneur Christophe Galtier l'entraîneur qui a maladroitement, certainement, parler de « on réfléchit à la question posée par un journaliste sur le jet privé, on réfléchit à se déplacer en char à voile ». Eh bien, c'est pas passé du tout. L'entraîneur prend des coups depuis hier et il prend de très gros coups.
Contre la Juventus ce soir.
Et il joue contre la Juventus ce soir.
Il ne fait plus qu'une défaite.
Et le déchaînement et ça... Et les réseaux sociaux, absolument. La vidéo qui a été partagée sur les réseaux sociaux et justement qui montrait les Parisiens prendre l'avion pour rejoindre Nantes. Qu'est-ce que vous pensez de cette affaire ? Est-ce qu'on en fait trop ? Ou Kylian Mbappé et l'entraîneur ont-ils raison de prendre la chose de façon humoristique ? Parlons-en. 01 53 48 3000 à tout de suite.
Les informés reviennent dans un instant. Beurre FM, 18h-19h30, Les Informés, présenté par Adil Farkan.
19h21, la dernière ligne droite avec Emmanuel Dupuis, notamment Rudy Casi, mais vous aussi au 01 53 48 3000, chers amis auditeurs, je vous attends, partout en France, nous appeler concernant donc cette polémique du PSG, concernant le climat et puis surtout le jet privé et le fait d'être déconnecté de la réalité. Est-ce que ça vous révolte ? Je vous attends au 01 53 48 3000. Un petit mot sur l'électricité avant de passer au dernier sujet qui nous concerne.
Il y a deux questions sous-tendent notre réflexion. C'est premièrement une réflexion que je crois que tous les pays européens sont en train de se faire sur le découplage du prix du gaz et du prix de l'électricité. Parce que jusqu'à présent, le prix de l'électricité est indexé sur le gaz. Ça veut dire qu'à un moment ou à un autre, cette crise en Ukraine est salutaire de ce point de vue. Il faut qu'on soit moins dépendant du gaz. Pas seulement du gaz russe, du gaz en général. On ne s'y oriente pas, puisque la dépendance vis-à-vis du gaz russe est en train de se transformer en dépendance vis-à-vis d'autres producteurs de gaz. L'Algérie, qui ne fournit que 4% du gaz européen, les États-Unis, comme je l'ai dit, le gaz et le pétrole de schiste, et d'autres acteurs.
Et bientôt le Qatar.
Et la Norvège aussi. Hein. N'oublions pas que le deuxième producteur mondial de gaz, c'est pas le Qatar, c'est la Norvège.
C'est la Norvège, vous avez raison.
Le Qatar est troisième et l'Algérie quatrième. Et autre point, une réponse basique. Il faudrait tout simplement que l'électricité coûte moins cher. Et là, on est quand même dans un paradoxe. Parce que si on veut que l'électricité coûte moins cher, c'est pas en investissant dans un mix énergétique avec des énergies renouvelables. Car les énergies renouvelables, soyons-en conscients, coûtent beaucoup plus cher. Le prix au kilowatt solaire ou de l'éolien est autrement plus cher que le prix du nucléaire pour une raison simple. C'est que le nucléaire est une énergie ancienne. Et donc, on a déjà impacté le prix de la construction des centrales. Donc, c'est un vrai paradoxe. J'ai pas la réponse. Bien sûr, nous ne voulons pas être en pénurie. Bien sûr, nous voudrions que notre électricité coûte moins cher. Mais c'est paradoxal, alors que nous sommes en train de faire des investissements dans une énergie qui va coûter beaucoup plus cher à l'État et extrêmement aux consommateurs.
Allez messieurs, Rudy Kazi, Emmanuel Dupuy, mais vous aussi au 0153483000. Autre sujet qui peut évidemment interroger, pourquoi de nombreuses stations sont-elles en pénurie de carburant? Alors ça va être problématique, parce qu'on parle aussi de pénurie de carburant, notamment chez Total. Elle est possible et il va y avoir quelques difficultés, notamment d'ici quelques jours. Alors, est-ce que cela vous inquiète, chers amis auditeurs? Est-ce que vous allez vous faire le plein d'ici quelques jours? Non, mais c'est vrai, on est en pleine. Mais c'est vrai. 0153 48 3000, vous nous appelez, ceux qui font de la route et beaucoup de route. Emmanuel Dupuy.
Bon, alors déjà, ça concerne Total. Ça concerne pas les autres producteurs. Bon, évidemment, Total est un gros producteur d'énergie en France, mais enfin, il y a d'autres stations à part Total.
Donc ça, c'est Total est partout.
Oui, enfin, elle n'est pas non plus en position de... elle est majoritaire, mais elle n'est pas en position d'exclusive ou de monopole. On est bien d'accord. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, la question du prix à la pompe est une question autrement plus grave que ce qu'on voudrait le penser. Et là, pour le coup, il suffit de regarder ce qui se passe chez nos voisins. Il y a 3 jours, à minuit une, la fin des aides à la pompe en l'Allemagne, on fait exploser de 50 centimes le litre d'essence. C'est exactement ce qui va se passer en France, le 31 décembre, en tout cas le 1er janvier, puisque l'État a dit qu'il ne pourrait plus, peut-être est-ce qu'il voudra trouver les moyens de permettre donc que nous ayons, je le rappelle, 30 centimes jusqu'au 31 octobre, 10 centimes à partir du 1er novembre, du 1er novembre jusqu'au 31 décembre. Donc oui, la question peut être posée, d'autant plus que Total, on l'a rappelé jusqu'à présent, est quand même largement lié à son appartenance publique, majoritairement entre les mains de l'État. Donc c'est aussi une responsabilité d'avoir mal anticipé, et là c'est plus du tout seulement le gaz russe, c'est tout simplement la surproduction pétrolière où les compagnies pétrolières veulent faire monter les enchères pour que l'essence coûte encore plus cher.
Encore plus cher. Rudy Kazi.
C'est ça en fait le vrai problème. C'est le comportement des compagnies pétrolières qui... parce que cette question en fait de la surproduction de pétrole... qu'il faut liquider, mais pas à un prix dérisoire. Donc effectivement, cette augmentation du prix du pétrole, elle existe par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a une surproduction du pétrole et une incapacité aussi d'absorption. Je crois que, par exemple, un pays comme la Chine, qui a eu à nouveau des restrictions Covid, finalement a aussi diminué sa consommation pétrolière et qui est l'un des plus gros consommateurs de pétrole au monde. Ça a eu quelque part aussi un impact là-dessus. Et le manque aussi d'investissement finalement dans les infrastructures, dans les raffineries, explique aussi pourquoi il y a cette pénurie de pétrole. Voilà,
Est-ce qu'on peut s'affoler, messieurs? Est-ce qu'on peut s'affoler? Est-ce que certains auditeurs peut-être peuvent se dire qu'il va falloir se ruer sur le carburant?
Peut-être juste pour finir, et puis... Emmanuel finira ou complétera, c'est que en fait, si vous voulez, pour que la population puisse être rassurée, il faudrait que l'État ou les États puissent jouer leur rôle là-dessus en ayant un comportement un petit peu plus contraignant vis-à-vis des producteurs de pétrole pour pouvoir essayer d'harmoniser ces prix qui ne sont malheureusement qui n'obéissent uniquement qu'à déjà effectivement à ce besoin d'évacuer cette surproduction, mais aussi à des opérateurs pétroliers qui choisissent aussi d'augmenter les prix.
Emmanuel.
C'est-à-dire qui profitent de cette crise-là pour augmenter les prix. Donc, aux États de se bouger là-dessus.
Tout ce qui a été dit par Rudy est particulièrement juste et je ne ferai que compléter. Premièrement, cette crise de la surproduction, encore une fois, n'est pas née avec la crise en Ukraine. elle est née avec elle est née avec l'apparition d'une pandémie en février 2020 qui a réduit de 35% les flux de commerciaux et les flux de transport. Donc, il y a eu une surproduction pétrolière depuis déjà 3 ans, avec des bateaux qui sont remplis de soute de pétrole. Il suffit d'aller voir dans les principaux ports mondiaux et vous avez au large des ports des bateaux remplis de pétrole qui n'ont comme objectif que de vendre leur pétrole. Donc on est dans une logique de surproduction. Nous avons trop de pétrole à écluser. Donc forcément, la logique veut que les entreprises voudraient que ce pétrole soit vendu le plus cher possible parce que nous aurons toujours besoin.
Est-ce qu'on doit s'affoler?
Alors, en principe, s'il y a plus d'offres et moins de demandes, c'est censé faire.
Logiquement. Mais l'on joue sur la peur du consommateur et le consommateur achètera toujours le pétrole, quel que soit le prix.
Dans une période où, outre le pétrole, la question aussi des énergies manquantes.
D'où effectivement la crainte, non pas que nous ne voulions, mais que nous ne puissions continuer dans ce système. Car si le prix du pétrole, alors je crois que au litre, j'ai les chiffres en Allemagne, on est à 1,93 € le litre pour le super et 2,28 je crois pour pour le diesel. Imaginez ce que cela provoquerait en France. Je rappelle que les gilets jaunes sont sortis dans la rue parce que le prix dépassait les deux euros le litre. Si on passe à 3, certains disent que ça pourrait même basculer jusqu'à 4. Alors je vous laisse imaginer
la
tension sociale dans notre pays comme dans l'ensemble des pays européens.
Merci messieurs.
On a fini
Oui.
Mais par exemple, même le basculement sur les véhicules électriques sont aussi conditionnés à l'augmentation du prix de l'électricité.
Oui.
En Angleterre, ça explose.
Merci à vous deux, messieurs. Donc, merci à Rudy Casi, au plaisir.
Au plaisir.
Merci à Emmanuel Dufy, au plaisir. Toujours à la réalisation, c'était Giovanni. Merci à tous les auditeurs au 01 53 48 3000. Time Sport, 20h, 21h. Je vous retrouve demain avec autant de plaisir, mais surtout, on ne lâche rien.
Mais on sera là-bas à l'écoute.
Absolument. Portez-vous bien, à demain. Ciao, ciao.
Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30 et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.